Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom. Une fois encore, je suis en compagnie de Chacha. Chacha, comment vas-tu ?
Bah ça va très bien, et toi ?
Bah écoute, ouais, ça va nickel. Ça fait quelques temps là qu'on n'a pas fait un épisode, mais bon, on a une fin d'année scolaire un peu chargée, on va dire.
Ouais, tu t'as passé le brevet, c'est ça ? Ou le bac ?
Ouais, exactement, ouais. Non, mais beaucoup de révisions et tout, il a fallu que je reprenne toutes mes capitales. Oh, quel enfer.
Ah ouais, c'est pas évident ça. Et puis comme tu les as mélangés avec les capitales du monde des pactes, bah en fait, t'es passé au rattrapage.
Ah bah, capitale de la Pologne, j'ai mis Versès, moi, comme un con.
Bah oui,
c'était pas la bonne
ça.
Planète.
Mais c'est le problème.
Ah là là. Non, mais ouais, on a été un peu occupés, mais on arrive à se dégager du temps quand même pendant ce mois d'été pour enregistrer un épisode qui va être un épisode un peu technique, on va dire. On va essayer de pas trop rentrer dans tout ce qui est stats, calcul et tout ça, mais...
Oui, parce que concrètement, ça nous fait chier, les stats, calcul, même si on aime bien la mécanique. On n'est pas des gros fans de fouilles parce que on n'est pas des fans de mathématiques non plus au départ, donc...
Bah moi peut-être un peu plus, mais on n'est pas dans l'optimisation, on va dire. On n'est pas du genre à chercher à maximiser nos personnages et les dégâts qu'ils peuvent faire et comment on peut optimiser la situation pour faire plus mal plus vite, etc. On a plutôt tendance à vouloir jouer un peu avec le jeu, avec les règles, etc. et créer des situations plus originales, on va dire.
Plus variées.
Voilà.
Plutôt que les sacs à PV de Donjon Dragon 5ème édition. Je l'aurais pas dit.
Oh, bim! Ah, ça envoie des scuds dès le début, j'aime ça. Bah écoutez, sans plus tarder, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on est là pour vous parler du système de combat dans Starfinder, et je vous propose directement d'allumer vos communicateurs et d'intercepter les ondes de Radio Absalom. Commencer un petit peu à aborder notre sujet du jour, il faut qu'on parle un petit peu de pourquoi on vous parle des combats. C'est-à-dire que Starfinder, c'est un jeu qui est comme l'édition 3.5 de Donjons & Dragons, dont je le rappelle, il tire une bonne partie de ses règles. Il est assez orienté combat et presque un peu le système qu'on appelle porte-monstre trésor, qui oriente un petit peu le jeu beaucoup plus sur ce côté combat, récompense et un peu d'exploration, plus que sur le côté narratif. Et donc c'est vrai que Starfinder met particulièrement l'accent sur ce qu'ils appellent les combats tactiques, même si, bien évidemment, il reste tout à fait possible de faire du combat peut-être un peu plus narratif ou théâtral, imagé, si tu vois ce que je veux dire.
Mmh.
Mais voilà, on a quand même une base que peut-être même certains qualifieraient d'un peu rigide. Moi, je serais pas complètement d'accord avec ça, même si on a des systèmes plus souples aujourd'hui. Néanmoins, ça fait quand même un bon système qui peut être assez lourd et assez complexe à prendre en main. C'est pourquoi on fait ce petit épisode pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, Chacha, est-ce que tu pourrais me dire globalement... Qu'est-ce qui rend les combats de Starfinder intéressants et comment on peut faire pour qu'ils soient stimulants, quoi.
Avant de parler de comment les rendre intéressants, d'abord se rendre compte que Starfinder, c'est avant tout un jeu, tu l'as très bien dit, qui est focalisé sur des combats qui sont dits tactiques. Et le combat est un peu le moment dans lequel toutes les règles pour lesquelles on a accumulé un certain nombre de pages vont pouvoir trouver leur résolution. C'est le moment où les capacités des personnages vont être les plus utilisées, vont pouvoir permettre de mettre en lumière les choix qui ont été faits par les joueurs. C'est le moment où l'équipement qui a été acheté, que ce soit les armures, les armes, mais aussi les outils, les grenades, tous ces trucs-là vont pouvoir être utilisés. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Si on va trop vite sur le combat, autant aller directement dans un jeu qui est plus narratif, parce que on perd un peu une des autres richesses qui fait Starfinder. Donc ça nécessite quand même que les joueurs et le maître du jeu s'accordent pour se rendre compte qu'ils vont devoir accumuler un certain nombre de pages de lecture et qu'ils vont devoir parfois avoir des hésitations sur les règles à utiliser à tel ou tel moment. Par contre, encore une fois, rappelez que la manière dont a été pensé le manuel des règles de Starfinder permet quand même de s'y retrouver assez vite, puisqu'il y a toute une section du manuel qui s'appelle règles tactiques. On avait déjà évoqué ça dans le tout premier épisode, mais en fait, c'est très facile de circuler dans ce manuel, puisqu'on a d'un côté à droite un petit bandeau qui indique dans quel chapitre on est, et en dessous, juste au bas de la page, on a une petite indication pour nous dire dans quelle sous-partie de ce chapitre on est. Donc, mais les règles tactiques qui constituent une trentaine de pages, je crois que c'est un peu plus, je les ai pas comptées.
Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, oui.
Dans le bouquin, permettent en fait, en se référant juste au bandeau à droite et à la petite bande sous la page, de savoir où est-ce qu'on est assez rapidement. Et une fois qu'on les a lus une première fois, c'est assez facile de s'y référer pour retrouver l'information dont on a besoin oui. Tout de suite maintenant. C'est quelque chose que je trouve plus difficile avec le manuel de Pathfinder 2, par exemple.
D'accord. Bah après, de toute façon, on va le préciser, mais en fait, il va y avoir donc les règles de base, et après, il va y avoir pas mal de petites choses. Je prends par exemple les états propres à certaines situations très particulières, ou les états physiques de vos personnages et tout, qui vont avoir des petites choses particulières. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, généralement, on ne retient pas par cœur. On peut se souvenir d'un ou deux comme ça, parce qu'on les voit régulièrement. Mais dans l'ensemble, ça va être plutôt des choses où on va les regarder à ce moment-là. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est facile.
C'est pour ça d'ailleurs que... Excuse-moi. C'est pour ça d'ailleurs que l'écran du maître est assez important dans ce genre de situation.
Ouais.
Parce que c'est lui qui va pouvoir avoir un petit résumé des états différents qui sont possibles dans le jeu.
Ouais, bah j'allais y venir, effectivement. Là, je l'ai devant moi et tout est résumé. Au moins, tout est listé, que ce soit les actions de combat, les états possibles, les bonus et malus en fonction du type d'état. Bref, c'est un résumé. Il n'y aura pas les détails, mais ça peut vous permettre de vous rappeler que, ah bah oui, grâce à ça, on a un bonus pour toucher ou des choses comme ça. Bref. Donc effectivement, n'oubliez pas de peut-être bien lire cette partie-là, notamment si vous devez masteriser, et si vous êtes joueur, je vous invite quand même à y jeter un œil, c'est pas mal pour comprendre comment ça fonctionne, et c'est globalement très bien expliqué, même si ça peut paraître un peu lourd, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais au moins comment se déroule un round, un combat, un peu les bases du combat. Et donc justement, j'ai parlé de round, est-ce que tu saurais m'expliquer ça, parce que ça c'est quelque chose propre à la mécanique du combat, qui est la première partie de ce qu'on va explorer.
Oui, première chose qu'on fait quand on arrive devant un combat, c'est un peu un classique maintenant des jeux de rôle, hein, c'est un combat au tour par tour, donc ça veut dire qu'il va falloir diviser les actions de chacun et chacune des joueuses et joueurs en rounds. Donc, voilà, c'est la base. Le round, en général, il fait 6 secondes, et depuis la 3.5, il fait en général 6 secondes. Et c'est dans un round que les personnages joueurs vont pouvoir jouer face aux ennemis. Et comment est-ce qu'on organise le tour de rôle avec lequel chacun et chacune joue? Eh bien, en fait, on calcule selon l'initiative.
C'est ça, c'est qu'effectivement, cette initiative, donc ça va être quelque chose de particulier. Hein, vous devez vous en rappeler, on a vaguement parlé lors de la création de personnages. C'est ça va être un lancer de dés. Un lancer de D20 sur lequel vous allez ajouter votre bonus d'initiative, et en fait, en fonction des scores, donc du plus élevé au moins élevé, ça va définir qui joue l'un après l'autre. Si jamais il y a une égalité, on va faire relancer les dés de ces deux personnes-là, et le gagnant va jouer un vers l'autre.
Alors ça, c'est ce que tu proposes. Moi, en général, s'il y a égalité entre un ennemi et un de mes joueurs, c'est le joueur ou la joueuse qui passe en premier avant l'ennemi, c'est un peu un truc...
Ah ouais, ok. Moi, j'ai toujours fait relancer le dé, mais ok, ouais, oui, ça se défend aussi.
C'est cool aussi. Ça devait être bien vénère quand tu jouais à la première édition de Donjon, où c'était un dé de 10. Tu devais souvent relancer le dé.
Ah, écoute, j'ai pas joué à la première édition de Donjon, donc tout va bien.
Bah, je vous parlerai, un de ces quatre, de comment est-ce qu'on réglait l'initiative dans la deuxième édition de Donjon Dragon, qui était un what the fuck avec les facteurs de vitesse, mais ça rendait le combat assez intéressant quand même. Bref, en tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit quand on s'intéresse au combat dans Starfinder, c'est que ce qui va se passer avant le combat n'est pas négligeable. C'est-à-dire que si les PJ savent qu'il y a des ennemis qui se trouvent dans la pièce d'à côté et qui font tout en œuvre pour être discrets, les prendre par surprise, monter une embuscade, ça va avoir un sens parce qu'il y a quelque chose qui existe dans les règles de Starfinder et qui existe là encore depuis des années dans ce système-là.
Oui.
C'est ce qu'on appelle le round de surprise. Ce qui signifie que si l'un des deux camps qui est en train de se battre a surpris le camp adverse, eh bien, vous avez le droit à une sorte de round gratuit dans lequel les joueurs vont pouvoir, si c'est eux qui gagnent le round de surprise, c'est eux qui vont pouvoir surprendre les adversaires et agir pendant tout un round sans que les adversaires en face puissent, eux, réagir. Donc c'est très important.
Même ce round peut même être lié, au-delà du groupe de personnages, peut même être lié au personnage en question. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes trois personnes dans la forêt. Moi, en tant que maître du jeu, je vais vous dire « Ok, faites-moi un jet de perception. » Il y en a un qui réussit son jet de perception, les deux autres échouent. Il y en a un qui va pouvoir voir qu'ils vont se faire attaquer par au-dessus, donc lui, il va être prêt. Les deux autres ne vont pas être prêts, et donc, eux vont prendre une attaque par surprise, avant même que je les fasse lancer leur jet d'initiative.
Ouais, exactement. Donc là, tu disais au tout début de l'émission que c'était porte-monstre-trésor, on est vraiment... Cette règle d'initiative, cette règle de round de surprise, on est vraiment dans une logique où, en fait, il faut faire attention quand on explore, il faut faire attention que le danger puisse arriver de n'importe quel endroit, il faut être prêt à faire face à de l'adversité. Donc c'est aussi pour ça qu'il existe ce round de surprise et qu'elle existe cette initiative. Une fois qu'on a passé le round de surprise, parce que voilà, il y a ce truc-là, on entre vraiment dans le combat, et du coup, là, tu vas pouvoir nous décrire, Atreid, quelles sont les actions qui sont autorisées aux joueurs.
Alors, dans un round de combat, ça va être assez simple, hein, au final, mais on va se retrouver avec trois actions pour un personnage lambda dans un round. Il va avoir d'abord une action simple, donc ça va être genre attaquer, lancer un sort, ou peut-être utiliser une capacité spéciale. On va avoir une action de mouvement, qui va être donc le fait de se déplacer. Et on va avoir une action rapide. Donc l'action rapide, ça peut être, je sais pas, se jeter à terre par exemple, pour se protéger ou peut-être modifier la prise qu'on a. Je sais pas, on a grippé un arbre, on va changer sa prise pour avoir une main de libre et pouvoir tirer avec notre pistolet laser. Ça peut être ça par exemple. Et ces trois petites actions-là, une des choses qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout à fait jouer avec. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'action de mouvement à faire, vous pouvez obtenir une action rapide, par exemple supplémentaire, parce que vous n'avez pas fait d'action de mouvement. Donc, en fait, c'est ce petit système-là qui peut paraître un tout petit peu rigide. Déjà, avec ça, vous pouvez jouer en fonction du nombre d'actions que vous voulez faire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez éventuellement faire deux actions de mouvement et sacrifier une voire deux de vos actions pour pouvoir effectuer ce que vous voulez. Donc il y a un système d'équivalence, hein, on ne peut pas sacrifier n'importe quoi pour n'importe quoi, mais voilà, c'est un système déjà avec lequel on peut jouer.
L'idée c'est qu'il y a une hiérarchie entre les actions. Hein. L'action simple est plus importante que l'action de mouvement, qui est plus importante que l'action rapide. Donc si on en sacrifie une, ça donne immédiatement accès à celle d'en dessous. Mais on ne peut pas sacrifier une action rapide pour avoir une action simple, par exemple. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut, on peut agir en dehors de son tour de jeu?
Alors, effectivement, dans Starfinder, nous avons ce qu'on appelle des réactions. Des réactions, ce sont des actions qui vont être déclenchées si jamais, par exemple, un ennemi se trouve juste devant vous et qu'il tente de bouger pour faire une action. Alors, ça peut être simplement partir du contact ou, je sais pas, aller chercher quelque chose dans sa sacoche ou quoi. À ce moment-là, ou se retourner, ou bref. À ce moment-là, vous avez une réaction possible, qui se traduit souvent par ce qu'on appelle une attaque d'opportunité. Donc en fait, en faisant ça en action au corps à corps, il vous crée une opportunité d'attaque, et à ce moment-là, vous allez pouvoir en profiter. Mais il existe aussi potentiellement des sorts ou des actions spéciales qui peuvent être données par certaines classes de personnages, certains objets, certaines capacités, qui pourront vous permettre en fait d'avoir une action supplémentaire durant cette opportunité-là. Et donc ça, c'est sur un tour un peu classique. Si jamais il y a certaines actions qui peuvent être un peu plus compliquées à mettre en place, auquel cas vous pouvez échanger vos trois actions, action simple, action de mouvement et action rapide, contre une action dite complexe. Et là, à ce moment-là, donc pendant le tour, vous n'allez effectuer que cette action-là. Et donc là, à ce moment-là, on va pouvoir, faire un truc beaucoup plus compliqué, comme par exemple faire une position, ce qu'on appelle un repli, pour se mettre à couvert, ou je ne sais pas, il y en a plein d'autres. Par exemple, on peut faire l'attaque à outrance. Peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est exactement.
Ouais, l'attaque à outrance, c'est ça remplace ce qu'il y avait dans Donjons Dragons 3ème édition ou dans Pathfinder sur les attaques multiples. Dans Starfinder, dès que vous êtes niveau 1 et peu importe votre classe de personnage, vous avez le droit de faire ce que tu viens d'appeler hein, une action complexe. Donc c'est-à-dire que tu sacrifies toutes tes actions pour n'en faire qu'une seule dans ton tour de jeu. Et attaquer à outrance, ça signifie qu'on attaque deux fois avec son arme. Il faut donc avoir une arme qui permet d'attaquer à outrance. Hein. Certaines ne le permettent pas, notamment les gros fusils.
C'est vrai.
Et lorsqu'on attaque, on s'impose un malus de moins 4 à ses deux jets d'attaque. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup utilisé, notamment lorsqu'on arrive au corps à corps face à un ennemi. C'est très bien d'avoir des personnages qui maîtrisent des armes de corps à corps parce que c'est le moment où elles vont pouvoir shiner, elles vont pouvoir utiliser leur attaque à outrance et défoncer la tête du type en face. Et ça permet aussi d'avoir un peu... moi je trouve que c'est pas mal ce système-là parce que ça permet tout de suite de se demander en tant que joueur, même niveau 1, s'il vaut mieux continuer à bouger sur le tactiquement, c'est-à-dire en fait... être mobile sur le champ de bataille, ou si il vaut mieux sacrifier son mouvement pour pouvoir faire une action plus complexe avec une possibilité, attaquer deux fois, c'est deux fois plus de chances de faire éventuellement un coup critique, par exemple.
C'est ça. Mais il faut s'imaginer un peu la situation, par exemple, quelqu'un avec un pistolet laser, il a un temps pour tirer très très court, du coup il va essayer de faire deux tirs rapides, et donc forcément il sera un peu moins précis, d'où le malus à l'attaque, par exemple. Voilà, donc ça c'est une des actions qui est possible. Il existe aussi l'action de charge. Si vous avez un personnage qui veut charger et dégommer tout le monde, ça va être une action complexe qui en fait lie l'action de mouvement et d'attaque, on va dire. Vous pouvez courir trois fois votre vitesse normale. Donc ça peut vous permettre par exemple de vous échapper très très vite. Bref, il y a pas mal d'actions qui peuvent être faites aussi. Donc, soit l'action simple, action rapide et action de mouvement, dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas être coupées en deux. Ça, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que si vous commencez un mouvement, vous allez au bout de votre mouvement, vous ne pouvez pas dire « Ok, je fais deux pas, je m'arrête, je tire, je refais deux pas. » Soit vous tirez, vous déplacez, soit vous déplacez et vous tirez. L'action simple, l'action de mouvement et l'action rapide ou l'action complexe qui va vous occuper tout votre tour.
Toutes ces actions sont résumées page 244 du manuel de base en version française, donc ça permet de savoir un peu, d'avoir un visuel assez rapide de ce qui est possible. On conseille aux apprentis MJ et apprentis joueurs peut-être d'imprimer ce tableau-là histoire de pouvoir le donner aux joueurs, et puis sinon il me semble, Atreid, qu'il y a une petite fiche qui est sur Pathfinder FR, c'est ça?
Ouais.
Que tu as, qui résume assez bien.
Ouais, en fait il y a une petite feuille qui est faite par la communauté, qui est adaptée déjà d'une feuille faite par la communauté américaine, donc qui a été traduite par la commu, et qui en gros résume l'action d'un tour avec toutes les petites actions possibles et ce qui est marqué, quel jet il faut faire, à quel moment, etc. Quelles sont les actions possibles, sont les moments, et c'est également rappelé dans le panneau du maître.
Donc globalement, ce qu'il faut retenir sur toutes ces actions, c'est que un tour de combat de jeu, soit vous attaquez, soit vous lancez un sort, soit vous utilisez une capacité spéciale ou un objet qui nécessite une action simple, et puis en général, il y a aussi un déplacement. Voilà. Globalement, il n'y a que ça à retenir. Après, il y a toute la complexité qui fait la richesse du jeu, mais concrètement, si vos joueurs, ou si vous êtes un joueur et que vous nous écoutez et que vous avez compris ça, bon bah ça suffit. Ce sera lorsque vous aurez votre tour de jeu, faudra vous mettre ça dans des cases. Est-ce que j'ai attaqué? Est-ce que j'ai bougé? Est-ce que j'ai lancé un sort à la place de mode d'attaquer? Bref. On va peut-être pouvoir parler rapidement de d'autres actions qui sont vraiment peut-être des exceptions à la règle.
Mmh.
Mais ça, c'est vraiment, il faudra en discuter avec votre MJ quand vous connaîtrez un peu mieux le système de règles. Je pense que c'est pas une... Ça peut se penser, mais peut-être une fois que les joueurs maîtrisent un peu mieux le système, il est possible de dire, par exemple, lorsque c'est à votre tour de jouer, de dire « Non, je vais retarder mon tour, je vais jouer après l'autre joueur ». Dans ce cas-là, vous perdez votre tour et vous changez d'ordre dans l'initiative. Donc ça peut être un peu compliqué pour le MJ, mais vous allez jouer en fait à partir de ce moment-là dans le combat. Par exemple, si Atreides jouait après moi et que j'avais un vrai coup à faire, mais je sais qu'il peut fragiliser une créature, j'attends son tour de jeu avant de jouer, bah dans le combat, je vais toujours jouer après lui à partir de ce moment-là. Et la deuxième chose, deuxième action qui peut être très importante une fois que vous maîtrisez un petit peu les règles tactiques, c'est celle de préparer son action, c'est-à-dire en fait vous définissez un déclencheur avec votre maître de jeu, vous utilisez votre tour pour dire s'il ouvre cette porte, je lui démonte la figure avec mon fusil laser, et dans ce cas-là, si l'événement se déclenche jusqu'à votre prochain tour, vous aurez le droit d'utiliser une réaction pour faire l'action que vous avez préparée. Donc vous sacrifiez en fait votre action simple pour qu'elle puisse être utilisée en tant que réaction.
Ouais.
Globalement.
Bon, on en reparlera peut-être plus en détail un autre jour, dans un autre épisode, mais ouais. Voilà, sachez au moins que dans les bases, ça existe, et donc du coup, si jamais le truc de l'initiative et de jouer votre tour et tout, machin, vous vous sentez un peu bloqué par ça, bah en fait, sachez que, en creusant un peu les règles et tout, vous verrez que c'est tout à fait possible d'adapter ça en fonction de vos besoins.
De ce qui se passe.
Et de ce qui se passe, bien évidemment. Moi, j'aimerais revenir un petit peu, parce qu'on a parlé du fait de se déplacer.
Mmh.
Et alors, moi, j'aimerais savoir, parce qu'on a parlé du fait d'être au corps à corps ou pas au corps à corps, etc. Alors, je vois à peu près, si on se le décrit en théâtre fictif, imaginaire, à quoi ça peut ressembler. Mais on a dit que c'était quand même, Starfinder était quand même un jeu assez tactique. Et je sais qu'il existe ce qu'on appelle des cartes de bataille, des cartes de donjons, etc. dans Starfinder. Donc concrètement, si jamais on utilise ces outils-là, comment ça se passe ?
Alors rapidement, pour faire une bataille et pour donner un aspect visuel au PJ, si vous êtes autour d'une table de jeu, et ce que je vous conseille, et que vous êtes en train de manger des pizzas en buvant du coca, le mieux c'est d'avoir des tapis qui sont tout faits. Il y en a chez Paizo. Qui avec des cases, c'est des grilles qui sont comment on appelle ça, les grilles carrées là, des quadrillages quoi, et vous en avez qui sont disponibles directement chez Paizo, qui sont plutôt assez bien édités, mais sinon il existe aussi plein d'autres.
Et vous pouvez dessiner au marqueur dessus, effacer, etc. C'est comme des Velleda, donc vous en faites ce que vous voulez, ça c'est hyper pratique.
Voilà.
Aussi.
Il existe aussi plein d'autres grilles que vous pouvez acheter dans n'importe quel. Dans n'importe quel magasin de... Quoique pas tous, peut-être. Dans un magasin de jeux, en tout cas, ils peuvent vous les commander. Des grilles toutes simples, toutes blanches, un quadrillage, avec possibilité de marquer des choses au marqueur. Et ça, ça fait votre carte de combat. Sur les tables de jeux virtuels, et là, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui font des trucs sur Patreon et qui vont vous proposer des grilles. Mais tout ce que partagent toutes ces cartes-là, ou ses dessins, ou quoi que ce soit, c'est l'idée que il y a des quadrillages, et que une case de ce quadrillage correspond dans le système de Starfinder. Wow.
Pathfinder, ça doit être la même, je pense. À vérifier, ouais, mais ça doit être la même. Dans Donjons et Dragons, c'est la même. Enfin, c'est assez commun, on va dire, dans le système des 20.
L'idée, c'est qu'une case, c'est 5 pieds, en version américaine, c'est-à-dire 1m50. Et globalement, votre personnage à une vitesse moyenne, c'est-à-dire une vitesse qui lui permet d'aller à 6 cases, puisque la vitesse de base des personnages, c'est 9 mètres. Donc, vous savez que vous pouvez bouger à 6 cases pendant votre tour.
C'est ça. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est quand on parle de combat tactique, en gros, il faut imaginer qu'on prend la situation, on se met au-dessus, donc en vue de dessus comme une caméra, et on voit toute la situation d'au-dessus. Donc, vous allez avoir vos pions qui représentent vos personnages à un endroit, les pions adverses à un autre endroit. Vous pourrez voir sur la carte, soit parce que votre maître du jeu l'a dessiné, soit parce que c'était déjà présent et que vous aviez la carte, une carte imprimée. Et vous allez pouvoir voir les cases, etc. Et donc pouvoir dire, ok, je me déplace de 3 cases pour me retrouver derrière la caisse. Et donc être en position protégée, donc avoir des bonus, etc. Enfin, voilà. En gros, vous allez avoir une espèce de vue de dessus de votre décor. Et comme ça, vous allez pouvoir justement faire ce qu'on appelle cette partie tactique. Et donc, du coup, commencer à mieux vous organiser pour vous situer dans l'espace, utiliser l'environnement à votre avantage ou non. Et décider de vos actions de la meilleure façon qui soit. Et comme ça, vous verrez aussi beaucoup plus clairement les positions et déplacements des ennemis, s'ils sont visibles ou pas sur votre trajectoire. Enfin, voilà. Ça permet d'avoir une meilleure vision du combat, mais ça le rend du coup forcément un peu plus tactique, mais du coup plus mécanique qu'un combat théâtral imaginaire raconté par votre maître du jeu.
Ah, petite précision quand même, histoire de... Il y a toujours le problème avec les cartes qui manient le quadrillage de ce qu'on fait des diagonales. Puisque quand vous avez un pion, vous aurez... Et qu'il a autour de lui... combien de carrés ça fait? Waouh, 9 carrés autour de lui, un pion? 9 possibilités? 8?
Réfléchis.
Putain.
Ça en fait 8.
Donc voilà.
Ça en fait 8.
Ouais, je me... ouais. 9 quand tu comptes le... parce que s'il bouge pas, ouais, ça fait 9 carrés dans lequel il peut aller. Mais en gros, l'idée, c'est que ce qui pose problème, c'est qu'on peut vachement abuser du diagonale. Si un mouvement en diagonale, c'est considéré comme un mouvement d'un mètre 50 à chaque fois, bah, en fait, vous allez avancer beaucoup plus vite que si vous faites des angles droits. Donc pour pallier ce petit problème, Peizo a mis une règle un peu pénible à calculer quand vous êtes autour d'une table. C'est que le premier déplacement que vous faites en diagonale vaut une case, c'est-à-dire 1,5 mètre. Et puis le deuxième mouvement vaut deux cases. Donc si vous voulez bouger par exemple de 2 carrés en diagonale, et bien en gros ça vous coûte 3 cases de mouvement. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 4,50 m. La première est à 1,50 m et la deuxième est considérée comme à 3 m. Donc on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2 à chaque fois, si on veut bouger en diagonale.
En fait, il considère que quand tu fais la diagonale, du coup, tu fais un peu plus que la distance tout droit de la case. Et donc, ils le négligent pour la première case. Et à la deuxième, ils l'agrandissent pour rattraper celui qu'ils ont négligé avant. Et donc, du coup, voilà. C'est pour éviter effectivement que les joueurs ou les monstres d'ailleurs grugent sur toute la diagonale.
Ouais.
Mais je suis d'accord que c'est un peu chiant à calculer et ça m'est arrivé de pas le faire parce que voilà.
Oui, en général on se rend compte qu'on a oublié de le faire après que ça a été fait, donc pas grave quoi.
C'est exactement ça. Mais bon, voilà, sachez que ça existe et si vous êtes méticuleux sur ces petites choses-là, c'est pas gênant.
Bah si, sachant si vous êtes méticuleux sur ces choses-là, ça va être gênant pour vous. Mais
oui, ça va
nous,
être
on
gênant.
S'en fout.
Nous, on l'est moins, donc on a tendance à des fois à bypasser ça. Surtout que c'est un avantage qui est donné aux joueurs, mais aussi, du coup, aux créatures. Donc en soi... ça c'est bien, on peut se déplacer partout. Et maintenant, comment ça se passe si on veut attaquer? Parce que notre but, c'est d'attaquer des monstres ou d'autres personnages, etc. Donc, comment ça se passe à ce moment-là?
C'est là qu'on arrive dans ce que j'aime, la simplicité du système de Starfinder, parce qu'on dit tout le temps qu'il est complexe, mais en fait, faut pas se foutre de la gueule du monde. Globalement, vous jetez un dé de 20, vous ajoutez des modificateurs, et si vous dépassez un certain seuil, vous avez réussi votre action. Ça marche lorsque vous attaquez, ça marche aussi avec les compétences, on l'avait déjà dit. Et donc tout ce qui va être important à tel moment, c'est de savoir quel est le modificateur et quel est le seuil à dépasser. Dans un combat, quand vous attaquez un mec avec un fusil d'assaut ou avec un lance-piqûre ou avec un bâton, ça va être toujours de dépasser ce qu'on appelle sa classe d'armure. Là où Starfinder est rigolo, c'est qu'ils ont fait deux types de classes d'armure, la classe d'armure énergétique et la classe d'armure cinétique. Bon, la classe d'armure énergétique, c'est concrètement tout ce qui va être des dégâts qui ne sont pas des dégâts physiques. Donc feu, électricité, sonic, plasma, acide...
Typiquement, vous avez un pistolet laser, ça sera l'énergétique.
Voilà.
Et contrairement à ça, la cinétique, qui elle, va être tous les dégâts physiques.
Contondants,
tranchants, etc. Si vous prenez un coup de masse ou un coup d'épée, ça sera le cinétique. Si vous tombez d'une falaise ou quoi que ce soit, ça sera le cinétique aussi. Voilà, hein, globalement, tous les coups un peu classiques, ça sera le cinétique. Et si c'est plus des coups de pistolet laser, des trucs comme ça, on va être sur l'énergétique.
C'est relativement intuitif, en fait. Donc, maintenant que vous avez cette base-là, c'est bon. Vous savez déjà qu'il faut jeter un dé de 20 plus des modificateurs et dépasser la CA. Maintenant, deuxième chose.
C'est ça, dans tout le système des 20.
Dans tous
les jeux au système des 20, c'est le dé de 20 avec des bonus et il faut que ça passe un seuil.
Ensuite, dans Starfinder, il y a trois types d'attaques. Il y a l'attaque de mêlée, quand vous êtes au corps à corps, l'attaque à distance, quand vous utilisez une arme à distance, et l'attaque de lancer, quand vous balancez votre ami Isoki sur les adversaires ou une grenade. Ça va être un jet de lancer. Ça, c'est important de le savoir parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir aussi quel modificateur utiliser. Je précise tout de même parce que je me suis posé la question, dans la 5e édition de Donjons Dragon et dans Pathfinder 2, on a des jets d'attaque de sorts. Ils n'existent pas dans Starfinder. On vous dira dans le sort que vous utilisez si vous devez faire un jet d'attaque. Et si vous devez faire un jet d'attaque, et ben dans ce cas-là, on vous dira si c'est un jet à distance ou si c'est un jet de mêlée.
C'est ça. Donc en gros, soit vous avez votre sort qui s'applique directement sur la cible que vous avez et puis vous n'avez pas de problème. Soit c'est un sort qui, on imagine, lance, je sais pas, un rayon de vos mains que vous devez contrôler. Là, à ce moment-là, il va falloir faire un jet d'attaque à distance parce qu'il va falloir viser correctement. Et là, ça va être du coup votre dextérité, votre capacité à contrôler votre sort et à viser précisément qui va jouer sur est-ce que votre sort touche ou pas.
Exactement, je reviendrai là-dessus quand on parlera un peu de lancer un sort, mais tu l'as assez bien résumé. Donc, la vraie question et la vraie problématique autour des tables de jeu de Starfinder / Pathfinder, c'est de savoir quel modificateur appliquer. Et c'est là qu'on entre un peu dans l'engrenage de la machine que d'aucuns disent un peu rigide qu'est Starfinder. Globalement, quand vous allez jeter votre dé de 20, vous allez commencer par vous demander si vous faites une attaque de mêlée, lancée ou à distance. Si vous faites une attaque de mêlée ou de lancée, vous allez ajouter un premier bonus, qui est un bonus que l'on appelle un bonus de caractéristique. C'est le bonus que vous avez associé à votre caractéristique, soit la force si vous êtes sur mêlée et lancée, soit la dextérité si c'est une attaque à distance. À ce premier bonus s'ajoute un deuxième bonus qui lui est lié à la classe de votre personnage, ce qu'on appelle le bonus de base. Celui-ci s'applique à toutes les attaques et on l'appelle le BAB, le bonus de base à l'attaque.
C'est ça. Alors, sachant que tout ça, vous n'aurez pas à le recalculer à chaque fois. C'est-à-dire que c'est marqué sur votre feuille de personnage, c'est marqué bonus de base pour le lancer, bonus de base contact, ou alors vous l'aurez mis à côté de vos armes, et c'est réglé. Et donc, du coup, sera marqué plus 5, et vous savez que quand vous tapez avec votre bâton, vous faites un dé de 20, plus 5, qui comprend en fait votre modificateur de force et votre modificateur de classe.
Ouais, mais il faut juste savoir comment est-ce qu'il est construit pour reposer la question si par exemple on n'a pas joué pendant 3 mois et qu'on retrouve sa feuille de perso et qu'on sait plus ce que c'est. Mais globalement, ça c'est un peu la partie un peu la plus simple. Il y a éventuellement d'autres bonus que l'on va vous donner qui sont liés peut-être à vos choix de création de personnages, un bonus racial par exemple. Ou certains bonus qui sont
des
bonus qui sont liés à des dons de spécialisation, mais en général, ces bonus-là ne sont pas typés. Une fois que vous avez ces premiers bonus-là, vous voyez que je fais attention quand j'en parle à bien rajouter des petits mots derrière mon bonus. Et c'est pas, je dis pas, un bonus simple sans rien. Il y a le bonus de base, il y a le bonus de caractéristiques. Donc en fait, Starfinder est un jeu qui joue sur les types de bonus. Et à tout cela vont s'ajouter des bonus de circonstances, des bonus d'altération, des bonus de morale, des bonus de chance. Je crois que j'ai donné... Non, il me reste encore d'autres bonus. Il y a les bonus d'armure, mais qui sont liés à votre armure à vous. Donc, par exemple, une armure, un équipement qui vous donne plus 2 à votre classe d'armure. Et des bonus divins. Voilà. Donc, tous ces bonus-là, il faut que vous compreniez comment est-ce qu'ils s'ajoutent à votre attaque. Globalement et en général, ce sont les événements qui vous donnent ces bonus-là. Ce sont les sorts qui vous donnent ces bonus-là. Ce sont des objets ou des choses ou des potions que vous prenez qui vous donnent ces bonus-là. Vous ne devez pas apprendre cette liste de bonus par cœur. Ils sont toujours résumés dans la description soit du sort qui va être utilisé, soit de la potion que vous allez utiliser, soit de l'effet sur lequel vous êtes qui vous impacte. Donc ne vous embêtez pas à dresser une liste en disant « punaise, il y a 9 bonus de base, il y a 9 types de bonus que je dois connaître ». Vous embêtez pas là-dessus. Là où ça va devenir problématique, c'est que si par exemple vous avez un pote à vous qui vient de vous faire un sort qui vous donne un bonus de circonstance de plus 3 à votre jet d'attaque, et que vous avez un autre pote qui lui vous donne un bonus de circonstance de plus 1, savoir que ces deux bonus sont des bonus de circonstance, ça fait que vous ne pouvez pas les cumuler. Vous prenez toujours le meilleur. Donc en fait, c'est votre pote qui vous donne le bonus de circonstance de plus 3 qui le remporte sur votre bonus de circonstances de plus 1. C'est intuitif, mais il faut le savoir. Faites attention au type de bonus.
Ouais. Alors rappelez-vous bien que, effectivement, de toute façon, donc, tous les premiers bonus qu'on a évoqués seront déjà remplis sur votre feuille. Et sinon, le reste, ça sera contextuel. Donc ça sera au moment du combat. Votre pote va vous dire « Ok, tiens, je te fais un sort. Grâce à ça, tu vas avoir plus 2 pour toucher. » Ok. Et là, à vous de retenir qu'effectivement, dans le combat, vous allez avoir un bonus de la circonstance. Parce que vous êtes sous l'emprise de ce sort-là qui vous aide à toucher, par exemple. Et à l'inverse, le maître du jeu vous préviendra si jamais il y a d'autres circonstances qui font que bah, vous avez d'autres bonus ou pas, quoi.
Exactement.
Donc, une fois encore, ça peut faire peur, ça peut faire beaucoup de bonus ou de trucs comme ça. En fait, la plupart vont être un peu passés sous silence et vous allez simplement les calculer à différents moments. Vous n'allez pas vous retrouver à devoir tout recalculer, tous les bonus à la fois. Voilà. Paniquez pas. La plupart sont déjà marqués sur votre feuille, et s'il y en a de circonstances, ils vous seront énoncés et dits à ce moment-là par que ce soit vos camarades ou votre maître du jeu.
Mais on rappelle que pour que ça fonctionne bien, en fait, le système, il paraît un peu chiant comme ça, mais si tout le monde à la table de jeu est un peu conscient de ces trucs-là, bon, ça se passe plutôt bien. Faut juste pas regarder son téléphone portable pour savoir si on a reçu sa commande Uber Eats pendant que c'est au tour de son camarade de jouer. Il faut être un peu attentif sur le combat et ça va bien se passer.
Ça sent le vécu.
Non, ça ouais, mais je l'ai déjà fait en tant que MJ, ce qui était pas très intelligent.
Alors, d'ailleurs, ça c'est une des caractéristiques, c'est si jamais vous faites du jeu de rôle en ligne. Avec ouais, les ouais. Outils comme Roll20, Foundry VTT, etc. On fera sûrement un épisode dédié aussi aux outils qui existent pour jouer à distance. Tous ces trucs-là vont être un peu passés sous silence. Parce qu'en fait, comme c'est des outils en ligne et tout, ils intègrent déjà tous ces calculs. Donc si votre maître du jeu a bien préparé la scène et tout, tout ce qui sera bonus contextuel sera déjà préparé. Et si vous utilisez l'outil correctement, c'est-à-dire votre camarade qui lance un sort pour vous donner un bonus de plus 2, s'il arrive à bien vous cibler, vous, etc., en fait, le bonus sera valable directement. Donc, du coup, vous aurez juste à cliquer sur lancer votre sort. Et en fait, l'outil ouais. l'appliquera tout seul. Sinon, vous l'ajouterez vite fait et puis on n'en parlera plus, quoi. Mais c'est un des avantages des outils en ligne. Certes, c'est plus dur de maintenir la concentration avec tout le monde et tout. Mais ouais. Y a toutes ces phases un peu mateuses qui vont être passées sous silence, en fait.
Dernière petite chose, il y a certains bonus qui ne sont pas typés. Ce sont les bonus qui sont les plus importants à aller chercher. Et parmi les bonus non typés, eh bien justement les bonus d'abri, c'est-à-dire que si vous vous cachez derrière quelqu'un, enfin derrière des caisses par exemple, voir si vous avez un ami Isoki que vous n'aimez pas trop et que vous vous mettez derrière lui pour qu'il se prenne des attaques plutôt que vous, vous aurez des bonus à votre armure, à votre classe d'armure, qui sont des bonus non typés. Donc qui s'ajoutent à tous les autres bonus que vous pourriez éventuellement avoir. Et ça, c'est très important parce que Comme Starfinder joue beaucoup sur les attaques à distance, savoir qu'on peut se mettre derrière des abris et qu'on peut avoir des bonus non pipés pour avoir une montée sa classe d'armure, c'est assez intéressant. En sachant que l'abri supérieur, c'est déjà plus 8 à sa classe d'armure et plus 4 à ses jets de réflexe, donc c'est des gros bonus si on y réfléchit bien.
Ouais, si vous jouez un peu avec l'environnement et que vous arrivez à bien vous coordonner, on reviendra sûrement un peu dessus en fin d'émission, un peu en ouverture, mais si vous arrivez à jouer comme ça, en fait, très vite, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir maximiser, entre guillemets, vos personnages et vos situations de manière à rendre les combats, en fait, assez accessibles et à bien vous en sortir. Et pour l'avoir déjà vu, une bonne entente, cohésion d'équipe avec une bonne utilisation de l'environnement peut faire drastiquement monter le niveau de l'équipe et peut changer le combat là où s'il l'avait fait juste en face à face, etc., en fait ils auraient presque perdu entre guillemets le combat. Et à l'inverse, en utilisant tout ça, ça peut faire la différence.
On en reparlera effectivement en fin d'émission lorsqu'on essaiera de déplier tout ce qu'on vient de...
Exactement.
De vous raconter pour voir comment on peut les utiliser. Du coup, on a fait la première, la base. En gros, on attaque.
Ouais, on attaque. Est-ce qu'on arrive à toucher? Si on arrive à toucher, qu'est-ce qui se passe?
La résolution de l'action. Ce que nous, on a appelé résoudre l'action. Et on a catégorisé ça selon trois choses: des effets, des états, des dégâts. La première, le premier lien qu'on fera avec la base, c'est que, comme tu nous l'as très bien dit tout à l'heure, Atreid, c'est que certains sorts ne demandent pas qu'on fasse un jet d'attaque, mais au contraire, demandent à ce que ce soit l'ennemi qui voit s'il résiste à votre effet ou pas. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle un jet de sauvegarde, on l'avait déjà évoqué dans les premières émissions, et ce qui fait que je peux avoir des amis à moi qui préfèrent jouer des classes de magie plutôt que des classes guerrières, c'est que, en gros, c'est pas à vous de jeter le dé, c'est au MJ. Et donc, si l'ennemi échoue son jet de sauvegarde, l'effet prend... il se prend l'effet, par exemple, un effet de peur ou un effet d'immobilisation. Voire, quand c'est des dégâts, il peut, en réussissant son jet de sauvegarde, se prendre quand même une partie des dégâts, par exemple la boule de feu, qui fait qu'on se prend la moitié des dégâts si on se prend une boule de feu.
Bah, le meilleur exemple de ça, par exemple, ça va être, on imagine un peu un genre d'illusionniste. Il va tenter de faire un sort d'illusion en particulier sur une créature, un personnage à ce moment-là. La créature ou le personnage va devoir faire un jet de volonté. C'est-à-dire qu'on va mettre à l'épreuve ses capacités mentales à se détacher de ce qu'on lui envoie et à se dire non, c'est pas la réalité, etc. Et en fait, soit il réussit son jet, donc il arrive à ne pas se faire avoir par cette espèce de manipulation mentale, soit au contraire, il ne va pas y arriver. Dans ce cas-là, il peut être effectivement soit tétanisé, soit prendre peur, etc. Et donc du coup, on va pouvoir profiter de cette situation à l'avantage du reste de notre équipe.
Ouais, donc ça, c'est les effets des sorts quand ils touchent des cibles et qu'il y a ces questions de jet de sauvegarde.
C'est ça.
Deuxième chose que l'on peut mettre dans les effets, c'est que on est dans Starfinder et qu'on va utiliser des choses à distance, que ce soit des sorts ou des armes ou des grenades, et que du coup la question qui va se poser, c'est celle de la portée. Quand on a une arme au corps à corps, c'est facile parce que il suffit d'arriver en face de la personne pour la frapper, mais quand on a une arme à distance, c'est bon de savoir à quelle distance est-ce qu'on peut viser la tête de Kennedy, par exemple, pour savoir si on va le toucher depuis le sixième étage de... Enfin bref, je reviens pas sur Oswald. Donc, la première chose, c'est la portée. En général, elle est définie quand vous achetez votre équipement, votre super sniper d'Izoki, je crois, Atreid, c'est ça que tu avais dans la partie qu'on avait fait.
Ouais.
Et donc, ouais, cool. On va avoir... Le manuel va vous donner la distance avec laquelle vous pouvez tirer. Vous pouvez toujours tirer à... un peu plus loin que la distance qui est annoncée dans le manuel, mais à chaque fois que vous allez avoir cette distance-là, que vous allez dépasser cette distance, vous allez rajouter moins 2 à vos attaques. Deuxième chose, une fois qu'on a défini la portée, on a les zones d'effet. Alors, la zone d'effet, c'est en gros l'espace dans lequel se produit l'explosion d'un sort ou l'émanation d'une grenade, ce genre de choses. Pour que puisse y avoir une zone d'effet, il faut respecter deux éléments particuliers. Le premier, c'est la ligne d'effet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tirer avec un bazooka dans une pièce dans laquelle avec un mur qui vous sépare. Il y a forcément le mur qui va se mettre entre vous et la pièce. Donc, c'est ce qu'on appelle le fait que la ligne d'effet soit coupée. Donc, vous ne pouvez pas tirer avec...
Techniquement, vous pouvez, mais...
Vous pouvez, mais dans ce cas-là, vous visez le mur. Vous visez pas la personne derrière le mur. Et dans certains cas, pas toujours, pas tous les cas, mais dans certains cas, on va vous demander également d'avoir une ligne de vue. C'est-à-dire que vous puissiez voir derrière le mur, pourquoi viser, par exemple, l'adversaire qui se trouve dans la pièce d'à côté.
Oui.
Donc ça aussi, bien garder en tête, ce que le jeu appelle ligne d'effet, c'est est-ce qu'il y a un obstacle dans la portée que je veux viser, et la ligne de vue, est-ce que j'ai besoin de voir mon adversaire, ma cible ou quoi que ce soit pour pouvoir utiliser mon effet.
C'est ça. Et derrière, on a effectivement, du coup, la zone d'effet.
Exact.
Quand on vous parle de la zone d'effet, c'est parce qu'en fait, selon ce que vous allez utiliser, votre attaque ne sera pas répartie de la même façon. Si je prends un souffle draconique, par exemple, vous imaginez bien que ça va partir de la bouche du dragon et se diffuser tout en avant. Alors, il va y avoir des souffles plus droits que d'autres, donc le cône va être plus ou moins évasé. Mais voilà, vous allez avoir une zone bien particulière, conique devant vous, qui va pouvoir toucher. A l'inverse, si vous lancez une grenade, ça va être une explosion, donc on imagine une zone un peu circulaire autour de là où s'est arrêtée la grenade. Bref, vous pouvez imaginer comme ça plein de façons de moduler votre zone d'effet. Et puis, s'il y a des obstacles en travers, peut-être que derrière cet obstacle-là, du coup, vous n'êtes pas touché, par exemple. Enfin, voilà, tout ça peut entrer en compte. Et ça va être important, et c'est pour ça, là, à ce moment-là, effectivement, sur les battle maps et les grilles dont on parlait au début de l'émission, ça peut être assez pratique pour déterminer si votre camarade est dans la zone d'explosion ou pas, mais qu'en même temps le monstre l'est ou non. Enfin, voilà, ça peut être assez rigolo, et c'est assez visuel pour les joueurs. Notamment, on lance une grenade, comme ça on peut dire, ok, elle a atterri là. Elle touche toute la zone là, et comme ça elle permet de toucher les deux monstres, mais pas notre copain. Enfin, ça permet d'optimiser un peu plus le combat.
On a effectivement, comme tu l'as rappelé, il y a 1, 2, 3, 4, 5 zones d'effet différentes. Ce qu'on appelle le cône, ce que tu as dit avec le souffle du dragon. La ligne avec un truc.
Un laser. Qui fait,
un laser, tout simplement. Une sphère, donc au sol, hein, l'explosion de ta grenade. Le cylindre qui est. Moi, je pense au sort colonne de feu dans D&D, ouais. Mais en gros, c'est un effet qui va avoir un volume, en fait. Donc, c'est pas simplement un effet au sol, mais il y a un volume, notamment s'il y a des gens qui volent, ou si ça, faut prendre en compte ça. Et puis, un effet qui est modulable, dans lequel, en fait, on va pouvoir choisir la zone d'effet. Choisir quels carrés sont affectés ou quels carrés ne sont pas affectés. Notamment, je crois que c'est le cas du nanosite qui a été introduit par le manuel Tech Revolution. Il a un nuage de nanite qui peut moduler à volonté pour... Donc là on se prend la tête pour savoir quels carrés sont impactés par son nuage de nanite.
Mais ça peut être du coup très optimisé en combat, du coup, parce que vous pouvez en fait répartir pour toucher que les adversaires et pas vos potes. Enfin, ça peut être très très pratique. Et derrière, une fois qu'on a géré tout ça, il nous reste plus qu'à gérer les dégâts.
Ouais.
Et là, à ce moment-là, on va venir surter aux résistances. Puisque comme on l'a dit, il y a plusieurs types de dégâts. Vous vous doutez bien qu'il y a également plusieurs types de résistances et réductions. Donc il y a par exemple la réduction de dégâts. C'est-à-dire que c'est une capacité particulière qui fait que le monstre va avoir une certaine tendance à résister aux coups qu'on peut lui mettre. Donc ça va s'appliquer sur tout ce qui est dégâts cinétiques. Donc en gros, on va lui mettre un coup de bâton, on va lancer notre dé de dégâts, donc ça va être un dé de 8 par exemple, je dis un truc au pif, hein. Ok, donc on va lui infliger, je sais pas, 6 points de dégâts. Et bien lui, il aura une réduction de dégâts de 3, ce qui fait qu'il ne touchera réellement que 3 points de dégâts. derrière, donc ça c'est pour des dégâts cinétiques, hein, des coups contendants, tranchants, des choses comme ça. Et derrière, on a des résistances à certaines énergies. On peut avoir la résistance au feu, par exemple. Vous imaginez bien qu'un dragon de feu, généralement, si on lui envoie des flammes dessus, bon, il va quand même y résister assez facilement. Donc ça va être des créatures qui vont avoir une certaine tendance à résister aux flammes. Voire même y être complètement immunisées, c'est-à-dire ne peuvent subir de dégâts par ces types-là, quoi. Et enfin, on va avoir les résistants à la magie. Tu peux nous en parler, du coup ?
Ouais, vous balancez votre sort sur votre adversaire. Il faut que vous lanciez un dé de 20, que vous ajoutiez votre niveau de jeteur de sort. Bon, en fait, ça marche comme les attaques, hein, pour dépasser un seuil qui est la résistance magique d'un ennemi.
Oui.
Si vous attaquez une bestiole qui a une résistance magique de 18 et que vous êtes niveau 1, autant vous dire qu'il y a peu de chances que votre magie traverse cette résistance magique. Mais t'as bien fait de rappeler tous ces types de dégâts et toutes ces résistances aux énergies, les réductions de dégâts, parce que ce qui va rendre aussi le jeu intéressant, c'est que, en fait, face l'adversaire que vous avez devant vous, que le MJ vous a mis devant vous, si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises.
Exactement.
Toujours peut-être consacrer un de son premier temps, une de ses premières actions à essayer de se rappeler des choses sur les créatures que vous avez en face de vous pour savoir quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs résistances, quelles sont leurs immunités. Et du coup, savoir quelles sont les meilleures armes à utiliser contre elles. Effectivement, on s'est rendu compte avec Atreides que la réduction aux dégâts, c'est pas comme dans Donjons & Dragons 5ème édition où vous allez avoir une créature qui est résistante aux dégâts tranchants. On fait vraiment la distinction entre tous ces dégâts-là. Là, si une créature a une résistance aux dégâts, soit vous avez l'arme qui permet de passer cette résistance aux dégâts, par exemple du fer froid ou un certain type d'alliage qui va vous permettre de la passer, soit vous êtes obligé de... Soit vous avez une arme magique parfois qui permet de le passer, soit vous êtes obligé d'appliquer la réduction des dégâts à chaque fois. Parfois, on fait aussi des effets critiques.
Alors, bien évidemment, connu de tous, hein, il existe déjà... vous connaissez l'échec critique, hein, on n'en a pas parlé, mais en gros, si vous faites 1 sur votre jet de 20 pour attaquer, vous allez vous vautrer salement quoi qu'il arrive, peu importe votre bonus, peu importe machin. Si vous faites 1 sur le dé, c'est un échec critique. Là, c'est le MJ qui décide des conséquences, s'il y en a ou pas. Mais dans l'ensemble, voilà. Et puis souvent, si vous faites une manœuvre plus risquée qu'une autre, si vous faites un échec critique, vous avez plus de chances de vous manger le retour de bâton. Derrière, effectivement, si vous faites un 20 sur votre dé, donc un coup critique, là vous allez pouvoir un peu maximiser vos dégâts. Et donc en fait, vous allez faire vos dégâts une première fois, et puis une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc comment ça se passe ? Tout simplement, vous lancez vos dés de dégâts, plus vos bonus, ça vous fait votre dégât du coup. Et vous faites ça une deuxième fois, si jamais c'est marqué x2 pour votre coup critique. C'est marqué x3 pour votre coup critique.
Alors, il n'y a pas de règle de x2 ou x3 dans Starfinder.
Alors, tu as les moyens de multiplier des trucs qui vont déjà être multipliés. tu as les moyens de gruger comme ça. Il n'y a pas de x3. Parce qu'en gros, dans Donjons et Dragons 3.5, je vais vite passer dessus, hein, mais il y avait des possibilités de faire un coup critique si on faisait 17, 18, 19 ou 20 sur le dé. Et d'avoir un multiplicateur de 3, voire de 4, ce qui du coup rendait la possibilité de faire des coups critiques beaucoup plus simples, mais avec une seconde contrainte, c'est qu'il fallait valider ce critique-là en relançant le dé derrière et tout. Bref, c'est un autre système. Là, c'est plus simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un 20, vous faites un coup critique, et derrière, vous faites simplement la multiplication des dégâts, entre guillemets, mais... Quand je dis multiplication de dégâts, ça, comprenez pas, on lance une fois le dé et on multiplie par 2, mais comprenez, on va lancer 2 fois l'action de dégâts. Ce qui permet du coup de rééquilibrer tout ça.
Il y a certaines armes qui font des effets, par exemple le pistolet laser de base Azimuth que vous avez au niveau 1. Si vous faites un coup critique avec, non seulement vous multipliez les dés de dégâts, mais en plus vous ajoutez des effets qui sont la combustion par exemple, vous allez... enflammer l'ennemi, il va se prendre un des 4 dés de dégâts chaque fois que c'est son tour tant qu'il n'a pas éteint les flammes qui sont dessus.
Tout à fait.
Du coup, je trouve que c'est pas mal de parler du critique parce que ça va nous permettre de passer directement à la dernière sous-partie de l'action qui est résolue. Si vous avez lancé un sort, si vous avez une arme qui fait des trucs particuliers, si vous avez utilisé un objet ou une capacité qui fait des trucs particuliers, voire si vous avez un effet critique qui fait aussi des trucs particuliers...
Ou voir si vous avez utilisé l'environnement.
Ou si vous avez très justement utilisé l'environnement, vous pouvez appliquer des choses que l'on appelle des états. Conditions, je dis mal. Conditions en anglais. La plupart du temps, ces états vont vous permettre, vont vous faire perdre des points de vie ou pas, mais surtout... Dans d'autres cas, il risque de vraiment gêner vos joueurs dans les prochains rounds. On a regardé un peu ensemble, il y a 33 états différents dans Starfinder.
Ouais, ça doit être comme ça, ouais.
34 si l'on compte l'état cassé, mais qui s'applique uniquement aux objets, qui sont une vraie plaie, la gestion des dégâts sur les objets.
Ouais, on en reparlera, ça aussi.
On en reparlera aussi. Du coup, est-ce que tu peux en décrire quelques-uns?
Ouais, bah en fait, alors ces états, effectivement, t'en parlais, bon, bah le fait d'être brûlé, en fait, on va dire que bah, vous allez soit, donc en gros, tous les tours, vous allez prendre des dégâts de brûlure que vous pouvez, du coup, soit arrêter en tentant une manœuvre quelconque pour éteindre les flammes sur vous, ou alors elles vont disparaître au bout de, je sais pas, 2-3 rounds. Mais pendant ces 2-3 rounds, tous les rounds, il subira un des 4 points de dégâts de brûlure, par exemple. Ça, c'est pour l'effet assez simple des flammes. Mais il y a d'autres effets, comme tu le mentionnais, qui peuvent être un peu plus fourbes, un peu plus perfides, qui permettent baisser les capacités de notre adversaire. Par exemple, on peut imaginer que, je sais pas, il va être dans l'état, on va lui infliger l'état de fatigue. Il y a pas mal notamment de poisons qui vont pouvoir infliger ces états-là. En état de fatigue, votre personnage ne peut plus courir. Ça veut dire que si vous voulez vous fuir du combat, ça va être assez compliqué quand même. Hein. Vous allez devoir y aller en marchant. Bref, le monstre, s'il veut vous poursuivre, il y arrivera sans problème. Vous pouvez également avoir des états de peur, de choc, qui peuvent vous demander un jet avant... même de lancer votre attaque, savoir si vous arrivez à faire, si vous avez assez de volonté pour quand même lancer votre attaque ou si vous êtes trop apeuré pour le faire. Vous avez des conditions qui peuvent réduire votre capacité à toucher, vous pouvez être ébloui par exemple, enfin voilà, il y a pas mal d'états, comme on disait, hein, il y en a une bonne trentaine et on va pas tous les retenir. Comme je disais, c'est rappelé et dans le livre, et certains sont... Enfin, ils sont même... je les ai là, donc ils sont même tous dans l'écran du maître. Et en gros, ils vont venir vous faciliter ou vous compliquer, si c'est vous qui avez des états particuliers, le combat et la situation. Voilà, je pense à enchevêtrer, notamment, tu t'en rappelles. Il y a une certaine partie avec un druide où j'aimais bien faire des lianes pour enchevêtrer tout le monde.
Ouais.
Ça permet du coup de faire que les personnes enchevêtrées se déplacent à la moitié de leur vitesse et subissent un malus de 2 à la classe d'armure, à leur jet de réflexe et éventuellement à leur test d'initiative, ainsi que toutes les compétences basées sur la dex.
Et au jet d'attaque aussi.
Voilà.
Ouais, donc ce qui va être important en fait dans Starfinder, c'est de bien comprendre que on en reparlera sur la synergie du groupe, mais savoir connaître et varier un peu les états sur des ennemis qui sont...
Ou sur des alliés, d'ailleurs.
Ou sur des alliés, c'est ce qui va vous permettre de gagner le combat. Tu parlais juste des poisons et des maladies. On l'a mis de côté parce qu'ils ont leur propre système de règles.
Oui.
En gros, quand vous êtes empoisonné, même s'il y a l'état effectivement fatigué, les poisons et les maladies vont avoir un système de stade différent. Il y a le stade 1 du poison qui va vous, en général, qui va s'attacher à une caractéristique qui va vous poser problème pour l'utiliser. Et puis, plus vous allez augmenter de stade, plus vous allez être dans le mal. Et le dernier stade, en général, c'est que vous êtes mort. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été que j'ai vu dans Starfinder et qui a été repris dans Pathfinder 2. Et qui est un système à lui-même que je trouve intéressant.
En effet. Et il y a un dernier état que je trouve rigolo.
Ouais.
qui est dans Starfinder, parce que bon, il y a d'autres jeux qui s'y prêtent moins, mais il y a l'état en apesanteur.
Oui, c'est vrai, c'est considéré comme un état.
Qui lui fait que, c'est considéré comme un état, mais du coup, vous ne pouvez pas bouger parce que vous êtes en apesanteur, donc c'est un peu compliqué en combat de bouger. Et du coup, vous êtes toujours considéré comme pris au dépourvu. Et vous avez un malus de 2 à vos attaques parce que vous n'avez pas d'appui, vous n'avez rien, donc ça devient compliqué de viser. Et je trouve ça très drôle, et ça c'est typiquement une situation que vous pouvez utiliser. Vous êtes dans un vaisseau en train de vous faire attaquer, où il y a des bestioles dans votre vaisseau, etc. Et ben il y a un de vos joueurs qui peut partir à l'ordinateur pour aller couper l'apesanteur dans le vaisseau. Et bam, vous avez une situation qui peut être un peu à votre avantage. À votre désavantage, mais dans tous les cas vous renversez la situation. Et vous essayez éventuellement de profiter de ça, sachant que vos joueurs, eux, seront au courant de l'action qu'il fait. Pas les adversaires. Sauf si vous le gueulez devant les adversaires, auquel cas les adversaires le savent. Et, vous avez plein de trucs comme ça pour pouvoir jouer. Et ça, c'est un truc typique, du coup, de Starfinder et de l'espace, c'est de pouvoir jouer avec l'apesanteur. Voilà, juste petite précision là-dessus, je l'aimais bien. Je le trouve rigolo comme état.
Ouais, mais tu fais bien d'en parler, parce que parfois, les joueurs et les MJ oublient que... que vos armures en fait à la base ont des bottes qui sont prévues pour couper la pesanteur et pour vous accrocher à certaines surfaces, donc en réalité ils ont quand même prévu le coup pour qu'on évite des choses qui sont trop complexes, parce que quand on est en apesanteur il faut pouvoir c'est comme dans la stratégie Ender, quand ils commencent à découvrir le combat en apesanteur, en fait il faut que vous puissiez vous accrocher quelque part avant de vous projeter. Et ça peut faire des choses assez rigolotes, mais parfois ça peut aussi complexifier à mort et rendre le combat beaucoup plus long que ce qu'il aurait dû être au départ. De toute façon, tous les environnements sont là aussi pour apporter un peu de piment à vos combats.
Ouais. On reviendra dessus rapidement, mais ouais, il y a pas mal de choses dans l'environnement qu'on peut utiliser.
Donc concrètement, si on résume, un combat c'est des rounds, c'est des actions, c'est des attaques ou des capacités ou des lancers de sorts ou toute autre chose qui sont résolus en général toujours soit avec un dé de 20 plus des modificateurs, soit avec des jets de sauvegarde. Et une fois que tout ça c'est fait, il y a des effets qui s'appliquent, donc avec des zones d'effet ou des portées, et il y a des dégâts, il y a des états. Et c'est tout ce micmac là que vous associez les uns avec les autres qui vont faire qu'un combat ne ressemble jamais à un autre combat, même si votre ennemi semble de prime abord un peu faible. Si vous avez un groupe qui arrive et qui est trop sûr de lui et qui ne voit pas que, par exemple, ils sont équipés que de fusils laser et que la créature en face, qui a beau avoir 4 PV, est insensible au laser, au feu, ils vont passer un sacré mauvais quart d'heure. Donc, c'est ce qui fait un peu le... Ce qui rend le combat, par les règles, déjà assez cool.
Mais justement, c'est ce que j'allais te dire. Maintenant, une fois qu'on fait tout ça, ok, c'est cool, il y a plein de choses et tout, mais ça peut être un peu lourd pour les joueurs. Comment on s'assure que notre combat ne devient pas juste un peu lourd et frustrant et est intéressant à jouer? C'est ça la vraie question. Déjà, si vous avez écouté l'épisode sur les créatures et ce qu'on peut trouver comme rencontre dans Starfinder, vous savez que les ennemis ont ce qu'on appelle des facteurs de puissance et qu'on va venir justement définir un peu le niveau d'une rencontre basé sur ces facteurs de puissance et basé sur le niveau du groupe qui va affronter. Et également, derrière, en fonction des créatures et de leurs facteurs de puissance, on pourra déterminer la quantité d'expérience remportée à la fin du combat, puisque ça, c'est un truc où les joueurs font très attention à ça. Ils aiment bien gagner leurs petits points d'expérience à la fin du combat et de se rapprocher de leur nouveau niveau. Donc, c'est important qu'un combat soit un peu récompensant, mais en même temps, il faut réussir à l'équilibrer et à le rendre stimulant à jouer. Comment on fait ça concrètement ?
C'est un truc un peu classique hein, dans la plupart de ce type de jeu, un peu porte-monstre-trésor, comme tu les avais définis au départ. C'est que pour rendre le combat intéressant, déjà, il faut pas faire en sorte de toujours mettre des boss sur les ennemis. Si vous avez joué à des tas de jeux vidéo, vous savez bien que si vous commencez le jeu et que... Enfin, sauf si vous avez joué à des conneries comme les Dark Souls. Vous savez bien que si on vous met un ennemi trop fort dès le début, ça va pas vous donner envie de continuer et qu'il faut quand même qu'il y ait une forme de marge de progression pour que, bah, ne serait-ce que pour pouvoir un peu aller chercher la dopamine dans le cerveau de vos joueurs et joueuses pour qu'ils soient contents d'être à votre table de jeu. Et pour ça, en fait, en tant que MJ, n'hésitez pas à proposer à vos joueurs des combats dans lesquels ils vont pouvoir un peu briller, ils vont pouvoir balancer des phrases un peu choc comme si c'était dans un film d'action des années 80, avec des créatures qui sont vraiment, vraiment pas bonnes, un peu ridicules, genre vraiment les sous-sous-fifres du gros boss que vous voulez leur faire affronter. Et pour ça, je l'avais déjà évoqué, il y a la page 390 du manuel de base, et cette page 390, elle va en fait détailler les rencontres en leur donnant un niveau de difficulté et un niveau de récompense en points d'expérience qui va vous permettre d'avoir un petit budget pour aller chercher vos monstres. Globalement, il y a 6 niveaux de... 5 niveaux, pardon. On aura compris que je ne sais pas compter. 5 niveaux de difficulté que vous pouvez donner à un combat facile, moyen, difficile, très difficile et épique. Votre boss, vous le mettez plutôt vers très difficile, épique, et vos sous-fifres, vous le mettez au niveau facile. Vous allez chercher le niveau moyen de votre groupe. En gros, si tous vos personnages sont de niveau 4, eh bien, c'est le niveau moyen du groupe. Et à côté de ça, on vous donne un certain niveau de points d'expérience que vous allez pouvoir utiliser pour aller chercher les monstres selon leur facteur de puissance. En gardant en tête quand même que si vous mettez un gros boss tout seul, qui est de facteur par exemple puissance 8, c'est pas la même chose que si vous mettez deux créatures qui sont de facteur de puissance 7. Si vous mettez deux créatures de facteur de puissance 7, c'est considéré par le jeu comme en fait un combat qui serait facteur de puissance 9. Parce que deux créatures... c'est toujours page 390, vous embêtez pas, enfin vous prenez pas la tête avec où est-ce que je vais chercher tout ça. C'est dans la table 11-2, équivalence de facteurs de puissance. En gros, quand vous mettez plus de créatures qu'une seule créature, vous pouvez pas mécaniquement penser que ça va s'équilibrer. En fait, le facteur de puissance des deux créatures va être beaucoup plus élevé, évidemment.
Oui, tout simplement parce que vous allez manger deux fois plus d'attaques, etc. Donc quand même, c'est une personne qui balance une fois une attaque par tour, vous êtes capable d'y résister. Si vous avez deux personnes, même si c'est des attaques un peu plus faibles, vous avez quand même beaucoup plus de chances de prendre double tarif ou que vos dégâts soient répartis. Et donc du coup, vous serez deux dans un tour à prendre des dégâts, là où avant, il n'y en aurait eu qu'un seul qui aurait pris la sauce, on va dire.
Exactement.
Donc intuitivement, avoir deux bonhommes de niveau 6, c'est toujours un peu plus dur qu'un bonhomme de niveau 7 en face.
Voilà. C'est clair.
Ça paraît assez évident.
Et puis, bah voilà, en fait, essayez de varier à la fois la difficulté des rencontres, de voir un peu ce que vous pouvez faire en mettant un peu plus de créatures, 2, 3, 4, peut-être qui sont en général plus faibles que votre groupe de base, mais qui, ensemble, vont créer une dynamique un peu plus difficile. Et normalement, ça permet en fait de pouvoir donner aux joueurs une vraie sensation que les combats sont pas juste des choses que vous jetez parce que ça fait partie du système de règles. Ils vont être contents d'être dans des rencontres qui sont un peu faciles, qui vont les mettre un peu en lumière et pour lesquelles ils vont perdre quasiment pas de points de vie. Et d'un autre côté, ils vont être aussi contents d'arriver dans un combat qui est beaucoup plus hardcore, où vraiment ils ont l'impression d'avoir fait une étape. Là où c'est votre rôle du MJ, c'est de savoir un peu distiller tous ces combats-là en fonction du temps de session. Si vous jouez 6 heures de suite, ça va être plus facile à penser que si vous jouez à chaque fois 2 heures, des petites sessions de 2 heures. Vos petits combats très rapides et très faciles, en fait, dans vos sessions de 2 heures, vous allez avoir tendance à ne pas trop les mettre. Alors que sur une longue session, vous allez la ponctuer de ce genre de petits combats pour varier en fait les scènes. Donc prenez conscience de ça et construisez vraiment vos scènes les unes après les autres pour pas toujours donner la même recette à vos joueurs.
Ouais. Alors comprenez bien plusieurs choses, c'est qu'effectivement un combat déjà peut assez vite durer un certain temps. Et d'ailleurs, petit conseil que je donne aux joueurs qui nous écoutent, pendant que c'est pas votre tour, réfléchissez à ce que vous allez faire dans votre tour. éventuellement des fois selon ce qu'a fait votre camarade ou ce qu'a fait l'autre, ça peut changer ce que vous allez faire dans votre tour, ça je vous l'accorde, et donc il y a des fois on est un peu pris au dépourvu au moment où c'est notre tour, mais il n'empêche que si vous pouvez anticiper vos actions avant, ça fait gagner du temps à tout le monde et ça évite de rendre le combat laborieux, parce qu'en fait très vite, s'il y a beaucoup de petits monstres plus vous, les tours peuvent s'éterniser.
Oui.
Donc ayez bien ça en tête, c'est un des défauts du jeu de rôle sur table, hein, c'est que ça peut traîner un petit peu en longueur si vous commencez à faire des combats trop longs ou avec trop d'actions, trop d'événements, trop de choses comme ça.
D'ailleurs, même en tant que joueur, c'est toujours intéressant de pouvoir commenter ce que vos camarades font en fait à côté, pour montrer que non seulement vous vous intéressez à ce qu'ils proposent, et puis accessoirement, vous, vous avez choisi une classe de personnage, mais votre camarade à côté de vous, il ou elle a peut-être choisi un personnage qui peut être... qui a une manière d'être monté ou des capacités qui sont intéressantes, c'est bien aussi de savoir ce que, comment il utilise ou elle utilise son perso. Et puis ça vous donne un truc à faire en fait pendant le combat, parce que c'est clair que si vous restez là à attendre que ce soit votre tour et vous n'avez pas réfléchi au truc avant, et en fait vous redécouvrez la battle map à chaque fois que c'est à votre tour de jouer, là le combat va effectivement s'éterniser. D'ailleurs... on en vient du coup à ce qu'on avait déjà un peu dit au tout début de l'épisode. Starfinder a beau être un jeu qui nécessite des règles tactiques et qui fait le combat un peu un de ses noyaux de fonctionnement. Nous, en tant que MJ, je pense qu'on n'utilise pas toujours la battle map et la grille, parce que si on fait ça à chaque fois,
oui,
ça rend...
oui,
le truc peut-être un peu trop mécanique, et ça risque aussi, mais ça dépend des joueurs avec qui vous jouez, ça risque aussi de rendre le jeu un peu trop combat-oriented et donc manquer parfois d'autres éléments qui font sa richesse. C'est une vraie question, en fait, qui est celle de savoir s'il faut utiliser une battle map à chaque fois avec une grille, avec des dessins, avec des pions, ou si parfois on peut utiliser le théâtre de l'esprit.
Ben, moi, souvent, je le fais varier un peu en fonction des situations aussi. C'est-à-dire que des situations où il y a pas mal de monde, ils arrivent dans une zone où il y a du monde, ils savent qu'il y a un combat, machin, là, je vais avoir tendance à utiliser la grille, parce qu'ils vont pouvoir jouer avec la tactique. À l'inverse, sur un truc un peu facile ou quelque chose où je veux mettre une emphase sur la narration, le côté un peu grandiloquent de l'affrontement, etc., je vais peut-être plus effectivement me tourner vers du théâtre, on va dire. Ou alors c'est que c'est un combat très très simple avec trois gobelins de l'espace qui sont devant eux, il n'y a pas d'environnement, de situation particulière qui nécessiterait une tactique particulièrement présente. Là, ça va être des choses où bon, on va pouvoir s'en passer. C'est à chaque MJ de voir midi à sa porte, j'ai envie de dire, en fonction de ses joueurs, de ses envies, de son contexte, de ses goûts. Nous, je sais que, enfin, nous, on aime beaucoup Starfinder aussi pour son lore et son univers. Donc, on a une fâcheuse tendance à mettre une emphase là-dessus et à faire peut-être des monstres parfois un peu plus particuliers parce qu'on aime bien. Ça va créer des situations plus originales et que nous, en tout cas, on trouve plus stimulantes. Il y a d'autres joueurs qui, justement, eux, préféreront optimiser vachement les combats et l'expérience et la montée de niveau et leurs stats et des choses comme ça. Ça va dépendre vraiment du groupe, quoi. L'avantage de Starfinder, c'est qu'il vous offre les deux et c'est à vous de jouer avec comme vous le sentez.
Il y a quand même une petite difficulté quand il s'agit de passer par le théâtre de l'esprit et donc pas passer par la battle map, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette boule de feu qui a une portée, qui a une zone d'effet qu'on a décrit tout à l'heure, avec où on pouvait préciser le nombre de cases qui sont sur la grille pour savoir si tel strum est dedans ou tel personnage est dedans. Comment tu gères ces questions-là, toi ?
Alors, moi, souvent, je les fais un peu au pifomètre. Ce qui est pas fou, hein. Mais en gros, il faut pas que mes joueurs sentent que mon pifomètre les désavantage. Souvent, je vais être un peu généreux. Mais en même temps, j'essaie d'évaluer en me disant, bon, ok, il envoie une boule de feu, machin, bon, lui, il est plutôt au niveau 2, donc sa boule de feu, c'est pas non plus un truc monstrueux, etc. Et j'essaie d'envisager, mais c'est vraiment, en fait, au...
S'il peut balancer une boule de feu au niveau 2, c'est que tu lui as donné un sort un peu trop puissant.
ouais, déjà, c'est un très bon match. Non, mais enfin, tu vois un peu ce que je veux dire, en gros, c'est que je vais évaluer un peu selon leur niveau, selon la situation, tout ça. Et vraiment, là, ça va être la partie qui, je pense, est l'une des peut-être des parties les plus compliquées en fait du maître du jeu. C'est pas de connaître les règles, c'est pas de connaître les stats, les bonus, tout ça. C'est cette capacité à être à l'aise avec le jeu pour improviser.
Ouais.
Et être capable, justement, peut-être des fois d'outrepasser vos règles pour avantager une situation, un combat et créer un truc un peu sympa au niveau de votre combat pour que vos joueurs soient stimulés, quitte à s'éloigner éventuellement un peu de ces règles rigides. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de MJ qui s'appliquent au niveau des règles et qui sont assez carrés. Et c'est pas forcément des mauvais MJ, mais voilà, ils vont beaucoup plus baser là-dessus. Il y a des joueurs qui vont apprécier ça, il y a des joueurs qui vont moins l'apprécier. Ça demande une connaissance plus accrue du système de jeu.
Ouais.
Vraiment, c'est une question de feeling, quoi. J'ai pas de formule magique pour gérer ça.
Pas hésiter peut-être à en parler avec les joueurs. Si vous avez une table de jeu que vous venez de monter et que il y a souvent quand on parle de combats où il n'y a pas de battle map qui sont prévus, c'est parfois parce que les joueurs ont décidé de tabasser, de faire un combat dans une cantina en sortant un sabre laser, alors que le MJ l'avait pas prévu, et du coup il est obligé d'improviser ce qui se passe à l'intérieur de la cantina. Par ailleurs, sur la battle map, moi ce qui me pose toujours problème, c'est que si vous êtes dans un environnement qui est surpeuplé, ça m'embête toujours de voir juste les pions des personnages et les pions des ennemis, alors qu'on est dans un environnement qui est vraiment crowdy avec plein de monde. Donc le théâtre de l'esprit, ça se met assez bien pour ça. Pas hésiter à en parler avec les joueurs après, en disant est-ce que ça vous va, est-ce que vous avez apprécié, comment est-ce que...
Et d'ailleurs, à l'inverse, les joueurs, n'hésitez pas à parler à votre MJ en disant
ouais,
le combat a été cool, mais c'est dommage, ça a un peu traîné en longueur, machin, ou bah, moi je suis chaman stellaire mystique, mais en fait j'ai pas trop, enfin genre je servais à rien, tu vois, dans ce combat, donc du coup j'ai pas... Voilà, n'hésitez pas à faire des retours à vos MJ, alors les engueulez pas, les insultez pas ou quoi que ce soit, leur dites pas c'était nul à chier, dégage. C'est pas comme ça, mais effectivement, dites-leur, bah c'est con, parce que moi, mon personnage, j'aime bien ça et tout, et en fait, ça fait plusieurs fois où j'ai pas la situation qui me permet de pouvoir utiliser ce que je prends et comment j'augmente mon personnage, quoi. Ou pareil, c'était trop exigu, du coup, au final, à chaque fois, on prend les attaques d'opportunité, du coup, on était un peu coincé, c'était un peu galère. Ou alors, on pouvait pas trop jouer avec l'environnement, enfin... voilà, n'hésitez pas à faire des retours, on parle des combats, mais ça marche aussi en général, faites un retour à vos MJ. C'est important, c'est pas pour vous engueuler, c'est pas pour que vous engueulez aussi, c'est pour que bah, les parties d'après soient plus stimulantes pour tout le monde, en fait.
Ouais, c'est clair, impliquez...
C'est pas une science infuse, MJ, c'est compliqué, on bosse dur pour préparer des parties. Et malheureusement, des fois, ça, on tente des trucs, des fois ça marche super bien, des fois ça marche pas. Des fois on est moins dedans, des fois on improvise un truc en se disant ça va être une idée cool. En fait, sur le papier ça l'est, dans l'application ça l'est beaucoup moins. C'est voilà, ça arrive, c'est pas grave quoi.
De toute manière, à la fin de la séance, la vraie question c'est de savoir si on s'est amusé ou pas.
Ouais.
Et c'est ça qui fait l'ambiance de la partie. Mais c'est clair qu'en tout cas, une discussion avec les joueurs et joueuses, c'est un des trucs basiques en fait. on peut pas faire de jeu de rôle sans communication, c'est clair.
En tout cas, c'est le bienvenu. Vraiment, n'hésitez pas à le faire.
Et du coup, toi, tu parlais... Donc, pour la question des battle maps et de non-battle maps d'être de l'esprit, t'as fini par évoquer la question de sortir des règles.
Ouais.
C'est clair que Starfinder est un jeu qui est d'une... J'ai voulu le montrer comme plus facile qu'il n'était, mais c'est une fois qu'on est sorti des grandes catégories, il y a des règles pour tout, ça en fait effectivement un jeu compliqué, et pour le montrer, en fait, je vais revenir sur des choses qu'on a mis un peu de côté au tout début de cet épisode, c'est-à-dire qu'on a parlé des actions simples, on a dit que ça permettait d'attaquer, mais en réalité, derrière le mot « attaque », il y a énormément de choses. Il y a la possibilité, quand vous avez des armes à distance, de faire des tirs de couverture ou des tirs de diversion, il y a la possibilité, quand vous êtes au corps à corps, d'utiliser des manœuvres, d'agripper l'adversaire,
Il y a la feinte.
Il y a les feintes qui sont possibles.
Les feintes, c'est très drôle. Les feintes, en gros, vous utilisez un jet de bluff, donc c'est une compétence, le bluff,
voilà,
pour tenter de faire une feinte à votre adversaire, ce qui permettra de donner un bonus ou un malus à la CH, je sais plus, ou un bonus pour toucher à vos
cas. Un bonus à votre attaque.
Ouais, je crois que c'est un bonus à votre attaque, à la prochaine personne qui va jouer.
Alors, pas forcément, c'est à toi-même seulement, tu feintes pour toi-même.
Si t'as pas le temps d'attaquer, je sais plus.
C'est l'émissaire qui a des choses... Et non, c'est pour ça, la feinte, c'est normalement une action de mouvement qui te permet de feinter avant d'attaquer.
C'est ça.
Mais il y a certaines catégories, l'agent ou l'émissaire, qui vont pouvoir jouer là-dessus pour pouvoir donner des avantages au groupe. Mais c'est clair et net que toutes ces actions-là, on a décidé de pas trop les définir pour laisser aussi à votre groupe et à vous en tant que MJ la possibilité de les découvrir par vous-même. Et puis de toute manière, normalement, c'est des choses qui viennent de la part des joueurs.
Oui, parce que le tir de diversion, par exemple, les joueurs qui disent « Ah ben, je peux pas occuper son attention là-bas pendant que mon pote, il se déplace, comme ça, il se fait pas voir et il peut y aller » ou je sais pas quoi.
Exactement.
Voilà, ben, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir lui dire « Bah en fait, tu peux, alors au lieu de tirer, toi, enfin, tu vas lui tirer dessus, mais ça sera un tir de diversion, donc il y aura pas de dégâts, mais par contre, ça va permettre à ton pote de se déplacer et de faire son action, enfin... »
Ça marche si le jour où vous jouez avec vos joueurs et que votre joueur propose ça, vous vous rappelez de la règle du tir de diversion. Et qu'il y a des gens à la table de jeu qui savent qu'elle existe. Mais imaginons que vous êtes face à une table où plus personne se rappelle qu'il existe ça. Imaginons que vous ayez dit « Bon bah, d'accord, tu peux faire ça, mais tu me jettes un dé de 20, et puis je vais te mettre un malus de moins 4, et puis si ça marche, ok, il pourra se déplacer. » Vous n'êtes pas dans les règles du manuel parce que y a une règle qui existe pour ça. C'est pas grave. Prenez le temps de relire ça ensuite. Revenez avec vos joueurs.
Au pire, vous aurez un joueur tatillon qui vous dira « Alors en fait, dans les règles, c'était marqué que j'avais un plus 2 normalement. » Et vous êtes là genre « Ah bah ok, la prochaine fois, si tu m'en feras comme ça, là j'avais zappé. Ok, très bien. »
Revenez ensuite avec les joueurs en disant « Ah bah la dernière fois, je vous ai donné ça, j'ai déconné, c'est pas grave, on avance. » Parce que le plus important, c'est de faire avancer la partie et pas de faire avancer les règles.
On apprend tous aussi, hein. Enfin je veux dire, même nous, on n'a pas 150 parties de Starfinder derrière nous. Il y a un paquet de trucs qu'on découvre après coup, que moi je découvre après coup, j'ai présenté la situation à mes joueurs, et du coup, j'ai improvisé. Puis en fait, on est revenu la fois d'après, on s'est dit « Ah bah non, en fait, j'ai regardé, et mon joueur avait regardé aussi, on s'est dit « Ah bah non, en fait, ça marche pas comme ça. » Bon bah ok, c'est pas grave quoi, on l'a validé comme ça pour la dernière fois, la prochaine fois, on fera comme ça, et puis let's go, c'est pas grave quoi.
Et d'ailleurs, en fait, de toute manière, essayer de sortir de la lecture à la lettre des règles, ça vous permet en fait d'avoir, vous, en tant que MJ, aussi un peu plus de marge de manœuvre pour jouer avec... ces récompenses-là que vous donnez au PJ, parce qu'en fait, vous allez pouvoir autoriser des actions qui, normalement, ne sont pas autorisées par les règles, quand vous voyez que les PJ sont en train de faire des choses qui correspondent un peu à ce que vous souhaiteriez qu'ils se comportent. Donc, on parlait tout à l'heure du fait d'être un peu actif pendant le combat, en s'intéressant à ce que font les autres, pour créer une certaine symbiose du groupe. Mais il y a aussi parfois des actions qui sont pas du tout pensées dans les règles, que vous avez même, vous, en tant que MJ, pas pensé, ou tout simplement, parfois...
Souvent, vous n'aurez pas pensé à tout.
Mais exactement, ou même parfois, l'environnement lui-même va permettre de jouer avec certaines récompenses, ou ça va permettre d'introduire des propositions d'actions qui sont pas du tout pensées par les règles. Et du coup, vous allez vous être obligé de manipuler un petit peu tout ça pour donner l'impression à vos joueurs que c'est eux qui sont les stars en fait.
Ouais, parce que c'est le but. C'est le but, c'est que ce soit eux les stars. Vous avez quelques PNJ ou méchants qui peuvent briller un peu, etc. Mais il faut que ce soit eux qui soient fiers d'eux et contents et d'être là genre... Ah, à ce moment-là, j'ai utilisé mon pouvoir et tout, comme ça, t'as pu faire exploser le baril qui l'a enflammé, et toi, derrière, vu qu'il était enflammé, t'as pu faire une attaque d'opportunité, machin, et truc. Ça qui est cool. C'est vraiment ça qui est cool, quand il y a une espèce de synergie, un genre de petit combo, ou un truc où vos joueurs se sont entendus pour renverser la situation et leur mettre à leur avantage. Et là, moi, je sais que de plus en plus, j'essaie de le faire, alors je dis pas que j'y arrive tout le temps, etc., mais j'essaie d'appliquer un peu, j'en ai déjà parlé, c'est ce que j'appellerais un peu l'effet Monster Hunter. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans Monster Hunter, vous êtes confronté à des monstres qui sont très gros, souvent plus forts que vous, surtout la première fois où vous l'affrontez. Et donc, du coup, pour ça, en fait, le jeu passe son temps à vous donner des outils. Alors, il y a les pièges que vous pouvez crafter, des trucs comme ça. Ça, dans Starfinder, on peut le retrouver un peu grâce aux grenades, ce genre de choses. Mais il y a aussi plein de choses dans l'environnement qui peuvent vous servir. Alors, ça peut être, en fait, au-dessus, il y a des rochers, et si vous tirez en haut, les rochers lui tombent sur la tête. À ce moment-là, il est assommé, boum, vous allez avoir 3 attaques pour pouvoir le dégommer, et ça vous permet de prendre l'avantage sur le combat. Ou, effectivement, le coup du baril explosif qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, c'est un classique, mais ça marche toujours. Le baril de liquide chimique dans le laboratoire, vous tirez dessus avec le pistolet laser, boum, ça explose. Vous avez les dégâts de l'explosion, ça s'enflamme, vous profitez de la situation, voilà, ça marche bien. Derrière, il y a de la fumée qui se crée, donc il peut y avoir de l'asphyxie, des trucs comme ça. Mais en même temps, il y a du brouillard, donc vous voyez plus forcément où est votre adversaire à cause de la fumée noire des flammes. Il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire pour changer le combat et pas juste être « Ok, il y a un monstre avec des grosses griffes que vous combattez. »
Oui, d'ailleurs, pensez bien que les joueurs et joueuses qui sont à votre table de jeu ont sans doute les mêmes références que vous quand ils arrivent à la table de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle on se met autour d'une table de jeu, c'est qu'on a envie de partager un moment d'action comme on peut, comme on en a en fait le vocabulaire par toute la pop culture qui nous entoure, que ce soit par les mangas, que ce soit par les films. Les gros actionneurs des années 80 ou même récents, hein, il est certain que si vous allez, je l'ai pas vu, mais si vous allez voir le dernier Mission Impossible, je ne pense pas que Tom Cruise passe son temps à calculer est-ce qu'il a réussi à passer la résistance à l'égocentrisme de l'ennemi ou pas. Il va plutôt changer d'environnement, utiliser tout ce qu'il a à sa disposition pour pouvoir s'en sortir avec toujours quand même la caméra braquée sur lui. Ça, c'est une autre chose. Mais en gros, pensez bien que tous vos joueurs et joueuses doivent être des Tom Cruise dans l'histoire.
Ouais.
Et que tu évoquais la question de la symbiose du groupe quand tu parlais d'un tel qui a aidé le joueur, la joueuse à ce que son action soit facilitée parce qu'il y a un baril qui a explosé. N'hésitez pas aussi, en tant que MJ, à en rajouter tout le temps lorsqu'il y a effectivement une bonne idée qui va permettre en fait à tout le groupe de pouvoir tirer avantage d'une scène. Souvent, dans des jeux comme Donjon Dragon, comme Pathfinder ou comme Starfinder, la première frustration des joueurs, c'est d'avoir le sentiment qu'ils ont fait moins de dégâts que la personne qui est à côté. Il est clair que si vous avez un soldat qui vient de utiliser son fusil, qui s'est bien positionné et qu'il a fait 37 points de dégâts et que vous êtes un émissaire et que vous ne faites que 4 points de dégâts, statistiquement, sur le papier, on va avoir plein de gens qui vont dire que c'est pas équilibré et que c'est pas cool. Mais les jeux de rôle, à la base, c'est pas équilibré. Hein. Vous prenez Donjon Dragon première édition, vous prenez la deuxième, vous prenez RuneQuest et tous ces jeux-là, ce n'est pas équilibré. Donc c'est à vous, en tant que MJ, de faire en sorte, pas qu'il y ait un équilibrage, mais que tout le monde à la table s'y retrouve. C'est pas grave que tout le monde fasse pas 58 points de dégâts. Il y a peut-être des joueurs qui adorent ça, mais il y en a qui aiment bien peut-être être celui qui a fait la bonne passe au moment où il y a le but.
Ouais, et puis on en revient à ce qu'on avait dit quand on parlait des monstres et tout, c'est un peu ces stéréotypes-là, c'est-à-dire on a le stéréotype du combattant, où là, effectivement, ça va être dur de le toucher, parce que le mec, il est robuste et tout, il a une bonne classe d'armure, mais à l'inverse, si vous essayez, je sais pas, si vous avez un magicien qui va avoir des sorts qui ont des effets mentaux sur lui, etc., bah, il va peut-être pas du tout être résistant au point de vue volonté. Donc, vous, en tant que MJ, n'hésitez pas à lui mettre un mob comme ça en disant « Bah ok, il va être balèze, mais en fait, je sais que lui, il peut le faire tomber parce qu'il a des pouvoirs faits pour ça.
Ouais. »
Et à l'inverse, le combat d'après, par contre, ça peut être totalement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir un magicien, alors il va être très fort mentalement et l'autre magicien, ça va être compliqué. Mais par contre, le mec au corps à corps, il va se faire un malin plaisir de le dégommer. Mais vous lui mettez des embûches pour pas qu'il puisse accéder au magicien trop vite. Ah, vous avez plein de trucs à faire, et n'hésitez pas du coup à jouer, et moi je sais que je fais ça quand je prépare mes parties, c'est que j'ai toujours les feuilles de perso, en tout cas de celles des joueurs dont j'ai la feuille, à côté de moi. Comme ça, je regarde aussi les capacités, les compétences qu'ils ont, et les affinités qu'ils ont. Ça me permet du coup de favoriser les situations, et donc soit, comme Starfinder le permet, de créer des monstres complètement imaginaires qui vont permettre ça, soit au moins d'en utiliser, et puis bah, des fois je sais que je raye certaines capacités du monstre, parce que bah, ça va emmerder mes joueurs, et j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai envie qu'ils puissent utiliser tel truc, et donc, du coup, qu'ils puissent jouer contre le monstre, et en fait, bah, cette capacité-là, j'en vois pas trop l'intérêt, ou je sais pas quoi, donc je vais pas m'en servir, et puis c'est tout, quoi. Et c'est pas grave.
Oui, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que il y a deux manières de le penser. C'est vrai que, moi, quand tu en parles, ça me fait penser que quand un joueur ou une joueuse choisit quelque chose pour son personnage, ça peut aussi donner matière à penser pour un combat. Par exemple, le technomancien qui peut prendre un talent qui fait qu'il peut utiliser ses sorts mentaux, parce que tu parlais de sorts mentaux sur les robots et les androïdes.
Oui.
Enfin, sur les robots, en fait, pas les androïdes, pardon. Qui, normalement, ne peuvent pas être atteints par des choses mentales. Bah, c'est le moment de lui mettre des robots dans certaines des combats. Et par ailleurs, deuxième chose, tu parlais de certaines capacités des monstres ou autres. Imaginons qu'il y a un monstre qui est complètement insensible à, je reprends mon exemple du monstre à 4 points de vie avec des gens qui sont équipés que d'armes laser, qui ne font que des dégâts de feu. Et ben dans ce cas-là, c'est l'occasion de penser à l'environnement pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose dans l'environnement qui pourrait affaiblir ce strum-là. Par exemple, une arrivée d'eau, parce qu'on est dans une station et qu'il y a, il y a une valve à ouvrir. Et dans ce cas-là, c'est aux joueurs de prendre l'information, de pouvoir savoir que dans l'environnement, ils peuvent utiliser quelque chose pour réduire ou jouer avec les immunités que vous leur avez mis en face. Et ça va rendre le combat autre chose qu'un simple combat de jet de dés. Mention spéciale d'ailleurs pour, tu parlais de Monster Hunter, moi je les ai pas fait, mais Divinity Original Sin 2 est particulièrement bon pour ça. Chaque combat est pensé pour être unique et pas pour être une répétition de est-ce que je l'ai touché ou est-ce que je l'ai pas touché. Et Starfinder, quand vous faites un combat que vous voulez qu'il soit important, on parle pas des combats faciles où c'est cool et c'est un peu à la bonne franquette, on se balance des trucs et puis on tabasse du strum facilement, mais pour des combats qui sont un peu qui ont du sens, effectivement, savoir ce que font les membres du groupe, savoir lesquels on a favorisés dans les dernières scènes et lesquels on va pouvoir mettre en avant dans cette prochaine scène, c'est vraiment le travail un peu secret, caché du MJ.
D'ailleurs, on fait ça pour les combats, mais aussi pour les scénarios, etc. Enfin, pour les histoires personnelles des personnages, etc. On fait ça aussi de manière à ce que chacun ait un peu sa position et puisse briller un petit peu de différentes façons. C'est surtout ça, en fait, c'est quand t'es MJ, c'est que tu dois créer des situations pour que tes personnages et tes joueurs jouent. Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'ils arrivent à faire des choses, et en même temps, il faut aussi leur mettre un peu d'embûches, il faut que des fois, tout ne marche pas non plus, il faut qu'ils soient à l'aise avec le système pour être un peu audacieux, quoi, qu'ils tentent des choses, et c'est comme ça qu'ils vont s'amuser aussi, c'est en tentant des trucs un peu exceptionnels et rares. Voilà, une action à la con de dire, bah en fait, je vais prendre appui sur le rebord pour tenter de sauter au-dessus de la barrière et taper le truc à hauteur, comme ça, ça va faire du bruit et ça va perturber le monstre. Genre, je sais pas, taper une cloche, par exemple, pour perturber le monstre. Voilà, ça c'est audacieux, ça c'est rigolo, t'as envie que ça marche.
Clairement.
Et puis, bah si pas de bol, ça fait 1 sur le dé, bah ça fera une situation drôle et croyez-moi qu'ils s'en souviendront. Généralement, les joueurs et vous, en tant qu'MJ, vous vous souviendrez de la fois où il a voulu taper la cloche et en fait, il a glissé sur le mur. Il s'est mangé la tête contre le coin, il s'est pété une dent, enfin c'est con, mais c'est drôle. Donc au pire, ils n'auront pas réussi l'action. Soit c'est une action audacieuse, ça marche et c'est stylé. Et si ça fail, c'est pas grave. Donc vous, en tant que joueur, soyez pas stupide, mais audacieux.
D'ailleurs, si vous lui cassez la dent à votre personnage, c'est l'occasion de créer un scénario autour d'une dent qu'il pourrait se faire implanter comme une dent augmentée que vous pourriez lui donner comme récompense après.
Mais complètement, complètement.
Une dent augmentée qui scanne des objets ou je sais pas quoi là, ce serait.
Ah, c'est complètement envisageable.
Trop le feu.
Et c'est ça qui est chouette et là je reprends un peu parce que ça va être un peu le résumé de notre épisode et de ce qu'on avait mis à la fin, c'est que voilà, dans les combats, ce qui est important, c'est la symbiose de groupe. L'environnement et les actions de vos joueurs, et notamment les actions audacieuses. Ne soyez pas paniqués par tout ce qu'on vous a expliqué, les dés de 20 et tout, vous verrez que ça se met en place assez bien au final, et que c'est pas si compliqué que ça. Et surtout, si vous avez la moindre question, peu importe là où vous en êtes dans votre partie, votre maître du jeu est là aussi pour vous accompagner dans vos jets, vos bonus, où ça se trouve sur votre feuille, etc. Donc, ça peut paraître un peu rigide, mais on peut prendre des libertés avec. Et surtout, vous avez un appui qui est le maître du jeu, qui est là pour fluidifier tout ça et vous accompagner pour que les combats soient aussi stimulants que le reste de l'aventure. Sur ce, nous, on va vous laisser, parce qu'on a fait un bon tour des combats. On va vous dire...
J'espère qu'on n'a pas été trop technique. On aurait pu être beaucoup plus technique que ça.
Oui, on a essayé de l'être... Enfin, on a voulu vous présenter vraiment les bases, et c'est pour ça qu'on a eu toute la section un peu plus débat à la fin, histoire de ne pas parler que de stats et de bonus. On espère que c'est clair pour vous. On a essayé d'expliquer ça du mieux qu'on pouvait. Et nous, on va vous laisser là-dessus. On vous dit à la prochaine, et on reviendra très vite avec, normalement, un épisode de lore, je pense. Sur le prochain.
Un épisode
de lore.
Ah, de lore, oui, bien sûr. Un épisode de lore, quoi.
Très bien.
J'ai très envie de faire une blague, mais ça, je vais pas la faire parce qu'elle est trop facile.
Ouais, je pense que tout le monde l'a déjà fait au moins une fois, donc
ouais,
on
je pense.
Pas obligé. Bon, allez, ouais. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Jouez bien. Ciao tout le monde.
Salut.